Ce matin, nous continuons avec Daniel. Donc, juste un rappel pour ce que nous avions vu la semaine passée, Daniel chapitre 5. Donc, nous avons retenu que de toute éternité, le plan de Dieu est que tous soient sauvés en le reconnaissant comme le seul vrai Dieu. Et Dieu fait preuve de patience envers ceux qui lui manifestent de l'indifférence et du mépris. Par contre, sa patience n'est pas sans limite. Donc, on l'a vu avec le roi Belshazzar. Donc, le roi Belshazzar a méprisé l'Éternel en profanant les ustensiles sacrés de la maison de l'Éternel. Non seulement cela, mais aussi en le faisant, en profanant ces ustensiles-là, il glorifiait donc les dieux d'argent, les dieux d'or et tout cela. Donc, c'était la forte idolâtrie. Donc, il n'a pas tenu compte du témoignage de vie du roi Nebuchadnezzar. Donc, ce péché entraîne donc sa mort et la chute de Babylone. Alors, Darius, le Mède, s'empare du royaume. Et aujourd'hui, nous allons voir donc Daniel chapitre 6, la fosse au lion. Donc, souvenons-nous du songe du roi Nebuchadnezzar au chapitre 2. Donc, on avait vu qu'au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe dans lequel c'était une grande statue qu'il avait vue. Et cette statue-là, effectivement, était composée de différentes matières, de l'or à la tête jusqu'au fer mélangé d'argile au niveau des membres inférieurs. Donc, les différentes parties de la statue représentaient différents royaumes qui vont se succéder. Donc, la tête en or représente le roi Nebuchadnezzar lui-même et son royaume. Et la deuxième partie de cette statue-là, c'était la poitrine et les bras en argent. Donc, la poitrine et les bras en argent, selon l'interprétation, représentaient donc le royaume Médo-Perse. Et lorsqu'on a vu le dimanche dernier, c'est-à-dire le royaume de Nebuchadnezzar, donc le roi Nebuchadnezzar, son royaume, qui était conduit par son fils, comme on l'avait vu, ce royaume-là va prendre fin avec le roi Belshazzar. Alors, à partir de là, donc, on voit Darius, qui est un Mède, donc qui va prendre le pouvoir. Donc là, c'est comme si nous sommes à la deuxième partie ou au deuxième positionnement de la statue qu'on avait vue. Donc, ça vient confirmer encore davantage que la parole de Dieu est vraie et elle s'accomplit. Donc, ici, on voit l'interprétation, effectivement, qui est en train de se mettre en place avec le fait que le royaume de Babylone s'écroule et à la place, donc, vient s'établir le royaume Médo-Perse. Donc, par la suite, on va voir le ventre et la cuisse, quel est le royaume qui prend la place et puis les jambes par la suite au fur et à mesure. Donc, on voit comment, effectivement, la séquence selon la parole de Dieu, s'accomplit véritablement. Nous allons faire notre lecture aujourd'hui. C'est une histoire connue, c'est un passage souvent qu'on connaît, qu'on a eu l'occasion de voir. Donc ici, dans la première partie, ça va être du verset 1 au verset 3, on voit effectivement que le roi Darius qui prend le pouvoir, donc va réorganiser son royaume. Et dans la réorganisation qu'il fait donc, il va établir des satrapes et puis sur les satrapes, trois intendants ou superintendants ou ministres qui vont donc pouvoir l'aider à gérer le royaume. Et dans son intention, effectivement, il voulait être informé de tout ce qui se faisait. Et donc, on peut dire que ceux qu'il a établis, peut-être, c'est des personnes, effectivement, avec certaines valeurs et, je dirais, certaines capacités qui pourraient l'aider, effectivement, à gérer son royaume. Et sur cette satrape, on nous dit qu'il établit aussi Daniel. Il établit Daniel et Daniel surpassait effectivement tous les autres chefs qui étaient avec lui. Et l'intention du roi donc était de pouvoir établir Daniel sur tout son royaume. Donc on voit d'où Daniel est parti. Je dirais même qu'il était certainement à la retraite et puis on allait le chercher sous le roi Belshazzar. On allait le chercher sous le roi Belshazzar parce que fallait qu'il explique. Maintenant, là, voilà un nouveau royaume, je veux dire, avec un nouveau royaume de personnes qui n'avaient pas la culture, je dirais, de Babylone, mais encore qui viennent et qui font confiance encore à Daniel parce que Dieu est en train d'accomplir un plan avec lui. Et puis, je voudrais faire noter que c'est la dernière partie historique de nos études. À partir de là, on rentrera dans les visions à partir du chapitre 7. Et qu'est-ce qui pourrait donc motiver cette intention du roi de pouvoir établir Daniel au-dessus de dans le royaume. Par lui, son intention était de l'établir sur le royaume, sur tout le royaume. Alors, qu'est-ce qui aurait pu motiver le roi à le faire? La sagesse évidente de Daniel.
Daniel avait un esprit supérieur, forcément le Saint-Esprit qui agissait en Daniel.
Ouais. C'est ça. Donc, Daniel avait un esprit supérieur. Donc, le roi a eu l'occasion de pouvoir voir un peu les attitudes, les comportements, les façons d'agir, d'intervenir peut-être de tous les autres satrapes et ministres qui étaient les trois chefs aussi qui étaient sur eux. Et il a vu qu'effectivement, Daniel avait une particularité. Okay? Mais cette particularité-là, elle viendrait d'où? De Dieu, du Saint-Esprit de Dieu.
Je crois aussi la marche fidèle de cet homme-là.
Oui.
Au début, on parle d'un jeune homme de 14 ans, 13, 14 ans.
Ouais.
Mais aujourd'hui, il est rendu très vieux. Là. Puis rien n'a changé dans son caractère. Dans sa... Bon, wow.
Il avait une réputation.
Oui.
Mais... Moi, je ne pense pas que le roi cherchait la vérité. Je pense plus qu'il cherchait à prospérer et utiliser cela pour prospérer.
Oui,
tout à fait. C'est ça. Il voulait que son royaume fonctionne. Hein? Parce qu'on nous dit qu'il les établit parce qu'il voulait pas que, il voulait pas, il voulait avoir le contrôle. Il voulait que son royaume soit bien dirigé, soit bien conduit. Donc, il établit des gens qui pourraient certainement lui faire le compte rendu. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça allait l'aider à prospérer. Des personnes qui allaient l'aider à mieux gérer son royaume. Et il voit effectivement que Daniel fait une différence. Alors, il veut l'établir roi. Mais comme on a dit, il y a la fidélité de Daniel aussi. Et puis, il y a ses attitudes aussi. Peut-être sa façon de faire aussi, sa loyauté et puis son intégrité aussi. Donc, le roi a certainement eu l'occasion de...
Un peu comme ceux qui n'ont jamais rien voulu savoir quand ils ont des épreuves, qui vivent dans... Le... Elle se priera pour moi.
Voilà, c'est ça.
Daniel avait quel âge environ à ce moment-là?
On dit 80.
C'est ça, parce qu'on sait que déjà, au chapitre 5, on parlait d'autour de 80 ans. Voilà, donc je dirais que c'est dans ces eaux-là, effectivement, qu'il l'était, à peu près.
Je pense que, autant que le roi avait une appréciation juste de Daniel, il avait une appréciation juste du monde du sang-dieu aussi, on va dire, parce que c'est marqué comme quoi qu'il les a établis pour ne pas souffrir de pertes. Donc ça dit quoi? Ça dit que le monde, dans le fond, il fonctionne pour eux-mêmes, tu sais. Dans une organisation, dans un gouvernement, c'est très vrai, le monde fonctionne pour leur propre
intérêt.
Intérêt,
ouais. Donc, c'est effectivement bien juste, c'est-à-dire, comme on a dit, il a vu l'intégrité de Daniel, son désintérêt à la richesse personnelle, c'est-à-dire tous ceux qui étaient établis, parce que le roi a certainement vu effectivement ces choses-là, on se bat pour nous-mêmes, on s'enrichit pour nous-mêmes, mais on a vu effectivement dans les études passées que Daniel, même quand on lui proposait des choses avant d'interpréter, il dit, garde tes affaires, moi, voilà, donne aux autres, voilà. Donc, effectivement, comme Philippe le dit, effectivement, il y avait ce désintérêt-là. Le monde, c'était la corruption, mais Daniel était intègre. Donc, le témoignage de Daniel, son honnêteté, il était irréprochable aussi. Et puis, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu était en lui. C'est-à-dire, la crainte de Dieu faisait effectivement qu'il pouvait avoir ces attitudes-là. Et j'ai noté aussi la direction de Dieu. C'est-à-dire, le plan et la souveraineté de Dieu pour Daniel. Donc, on va voir qu'en toute occasion, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie de Daniel. Ce que Dieu a prévu pour lui, c'est ce qui est en train de se réaliser.
C'est quand même un exemple pour nous qui travaillons dans des entreprises, dans le gouvernement. Comme chrétien, on est là pour faire prospérer notre employeur. Puis on est là pour travailler pour eux. Puis c'est un exemple chrétien, arrivé à l'heure, travailler fort.
C'est
des voyages. C'est de base, mais je me suis déjà fait dire par des entrepreneurs chrétiens, embauche jamais un chrétien parce que tu vas perdre de l'argent. C'est pas le bon témoignage. C'est d'aller prendre des décisions, travailler fort, faire de l'argent pour ton employeur.
C'est ça.
Saisir les opportunités.
Oui, c'est ça. Donc, on voit effectivement que Daniel était un modèle. C'est tout ça qui touche le roi. Et puis, le témoignage dont parle Marc, effectivement, quand il parle, mais je veux dire dans tous les continents, hein, le fait que des chrétiens vont dire « n'embauche pas un chrétien » parce qu'arrivé un moment, il y a cette peut-être mauvaise habitude ou de mal se comporter parce qu'on se dit « c'est une entreprise d'un frère » ou quoi que ce soit. Donc, ça pose, on en profite, ça pose problème. Donc ici, l'attitude de Daniel nous montre effectivement qu'on doit qu'on doit être des modèles. C'est un exemple qu'il nous donne. Ok, c'est bon. Il dit, quelle pourrait être l'origine du complot contre Daniel? Quand on lit les versets 4 au verset 9, on voit qu'il y a un complot qui se fomente contre Daniel. Alors, selon quelle pourrait être l'origine? Qu'est-ce qui peut causer la jalousie? Ok. Et puis quoi d'autre? Il y avait la jalousie, effectivement. C'est ça, il y avait la jalousie. Il y a en tout cas un paquet d'affaires là.
Et la base pour moi, c'est la jalousie qui va en force des autres.
Oui, parce que le roi a l'intention de le nommer. C'est ça, le roi a l'intention de le nommer. Peut-être certains ne sont pas contents, ça crée de la jalousie. Mais au-delà de la jalousie aussi, Daniel est intègre. C'est-à-dire, peut-être quand Daniel est là, il les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Il y a la corruption.
Merci. Je pense à ces jeunes là qui sont peut-être sur place, qui voient un vieux, on le donne à ce vieux là, la direction, etc. Et puis,
c'est ça.
Il est straight, il est intègre. Et tout.
Ouais, je pense que n'importe quelle personne qui a de l'expérience organisationnelle, c'est que quand tu es en haut de la pyramide, tu as un bon cours après ta job.
Mais il y a certains qui vont pas forcément, qui vont nécessairement pas être intéressés par ta position. Mais le fait, ta position les empêche de poser certains actes. Donc, tu deviens gênant pour ces personnes-là. Donc, il y a la jalousie et puis il y a le fait que Daniel aussi commence par devenir être gênant pour eux aussi. Son intégrité fait que ça ne marche pas. On a besoin de quelqu'un d'autre, peut-être qui aurait pu tremper dans les mêmes affaires que nous et puis on prospère tous ensemble. Et puis, donc, on voit ces éléments-là qui viennent... s'ajouter. Donc, la jalousie, comme on l'a noté. Et puis, Daniel est un obstacle aussi à la corruption, parce qu'on nous dit qu'il est irréprochable, il est intègre. Il est un obstacle à l'immoralité aussi, parce qu'il marche dans la pureté, il cherche à faire plaisir à Dieu. Son intégrité morale dérange. Et Daniel est loyal. Voilà. Ça, il ne pense pas seulement à lui, il respecte les tâches qui lui sont confiées, et puis il évolue en fonction. Alors, le complot contre Daniel ici, je le situe à deux niveaux. C'est-à-dire, au niveau 1, c'était sa fonction administrative. Donc, il organise, il veille. Et au niveau 2, sa vie spirituelle. Lorsqu'on lit les 4 et 9, on dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'en percevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc ça montre effectivement sa responsabilité dans la tâche qui lui est confiée. Donc c'est comme on l'a dit tantôt, c'est une interpellation pour nous aussi. Partout où on sait, quel que soit le niveau de service dans lequel on est, il est important effectivement qu'on puisse servir pour rendre gloire à Dieu. On dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc ici, il positionne les deux niveaux. Donc, niveau administratif, régulier qu'on voit, ce qu'on touche, ce que nos yeux peuvent voir, on va l'attaquer là-dessus. Mais ça ne marche pas. Ils disent, bon, si ça ne marche pas, on va l'attaquer sur le plan spirituel. Et puis, dans nos vies de tous les jours, c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire, on a le côté physique qu'on va voir et il y a le côté spirituel. Donc, quand le diable n'arrive pas à atteindre côté physique, il va chercher à toucher côté spirituel. Donc, ça, au niveau de sa fonction administrative, du niveau physique, on dit son témoignage professionnel est irréprochable. Il est un modèle, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et sur le plan professionnel, ses détracteurs sont confondus. C'est-à-dire, ils avouent leur échec et décident de passer à un autre niveau. C'est-à-dire, on va l'attaquer maintenant sur le niveau spirituel. Donc, sa vie spirituelle. Et au niveau de sa vie spirituelle, on nous dit Daniel est fidèle. Daniel demeure fidèle à son Dieu. Et donc, demeure fidèle à ton Dieu et perd tout, y compris ta vie, ou rien abandonne ton Dieu. Un gros dilemme pour Daniel se pose. Donc ici au verset 6, lorsqu'on le regarde, on n'est plus ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, Les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mers et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc ici, on voit que Daniel sera confronté à faire un choix. Soit c'est le roi qu'il va chercher à adorer comme Dieu, ou soit c'est refuser d'adorer ce Dieu-là, ce roi-là.
Les grâces de ces gars-là, ils vont aller chercher... Comment ils ont dû observer Daniel pendant longtemps. Mm-hmm. Et puis ils voient que c'est un homme pieux qui sert son Dieu, qui prie son Dieu. Oui. C'est ça qu'ils vont utiliser contre lui.
Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont eu l'occasion, c'est pour ça qu'ils disent au niveau 1, qu'on a au niveau 1, sur le plan de la vie de tous les jours, visible, on ne peut rien, échec. Donc, on passe à un autre niveau qui va être le niveau spirituel. C'est-à-dire, on sait que Daniel est un homme pieux, on sait qu'il prie régulièrement et tout. Voici pourquoi ils vont dire que, en ce qui concerne la vie professionnelle, on n'a rien à dire. Mais si on veut l'attraper, si on veut le piéger, parce qu'en réalité, c'est un piège, si on veut le piéger, il faut qu'on touche quelque chose qui touche à son Dieu, les lois qui concernent son Dieu. Or, dans les lois qui concernent son Dieu aussi, Daniel est fidèle. Mais donc, il faut qu'on raconte quelque chose au roi qui va l'empêcher. Et ce qu'ils vont dire au roi, donc, ils lui disent, mais, au verset 7, hein, tous les rois et satrapes sont d'avis et tout, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu, ou à quelque homme, excepté toi. Vous comprenez? Donc, ils savent que Daniel est habitué à prier. Donc, ils ont eu le temps de l'observer. Donc, on veut lui interdire ça. Et on veut lui interdire ça parce qu'ils savent que Daniel a une bonne relation avec son Dieu. Donc, en interdisant cette relation avec Dieu, on pourrait le toucher parce que s'il va faire un choix.
Je vois aussi de la flatterie aussi parce que s'il ne peut pas prier à aucun Dieu, aucun homme, fait que Darius est placé où? Dans le rang des dieux.
Darius est placé où?
C'est ça, si on ne peut pas prier, il ne peut prier à aucun dieu.
Excepté toi. Hey. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont flatter l'orgueil de Darius, en effet.
Oui, c'est ça qui disait Daniel, ou la presse. Parce que si je lis Daniel ou la presse cette semaine, il ne faut pas être silencieux face à cette loi-là sur la laïcité. C'est excessivement grave. Mm-hmm. Puis maintenant, on fait face à une interdiction de la prière dans les lieux publics. Si moi, j'étais au cégep, quand j'étais au cégep, on était un groupe qui prenait la cafétéria tous les jeudis. Mm-hmm. Ça, c'est considéré illégal.
Actuellement. Tout à fait.
Si la loi passe.
Cette semaine, on voyait un joueur sportif qui priait... devant la télé, il est catholique, puis il priait avant le match.
Oui.
Ça va. Il aurait été arrêté par la police ici au Québec, là, si cette loi-là passe.
Tout à fait.
C'est pire que ça, là. Tu sais, quelqu'un me dit en haut, non, cette affaire-là, mais tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, wow. La loi va aussi vers notre argent. Tu sais, nos dons seraient plus éligibles à des impôts. Ils veulent rendre ça illégal pour des organisations communautaires à louer
des espaces publics.
Ils veulent taxer nos édifices au taux industriel de la ville. On parle de centaines de milliers de dollars. Là. Puis ils savent qu'on n'est pas capable de payer. Donc ils disent, inquiète-toi pas, il y a un escalateur de 3 ans, puis après ça, on va acheter ta bâtisse pour vous autres. Ça, c'est la loi qu'ils veulent passer là. Puis, tu sais, il faut que les chrétiens... Puis Jésus n'a pas dit, « Hey, ça va bien aller. » À 5 reprises, il dit à ses disciples, « On va faire face à la persécution. » La persécution est à la porte de l'Église au Québec. Puis, il faut que les chrétiens s'informent et qu'ils prient à ce sujet-là.
Amen.
Parce que 240 000 de la nouvelle édifice de taxe foncière, on n'est pas capable de payer.
Non.
Puis Dieu n'a pas besoin de nos édifices, il n'a pas besoin du camp des boulots. Mais on l'a vécu au camp des boulots, cette affaire-là. Puis, les documents qu'il nous faisait signer, là, c'était est-ce que tu es pour l'avortement? On a refusé de signer ce document-là. Ça nous a coûté 380 000 $. Le camp a fait 3 ans de déficit, on était obligé de monter nos taux. C'était vraiment dur. On n'avait pas de dette, on avait un peu d'argent, ça nous a permis de survivre. Mais il faut se mettre à terre comme croyant, puis prier. Puis là, on fait confiance à Dieu qu'on n'a pas besoin de ces affaires-là. Dieu bâtit son église à la plus grande rapidité au monde, en Chine, où il n'y a pas de...
Pas de tout à fait.
Dieu va continuer à bâtir son église au Québec, convaincu ça.
Amen.
Est-ce que ça veut dire qu'on aura nos bâtisses? Je ne sais pas. Mais il y a un gros point d'interrogation. La prière publique, tu sais, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va se cacher? Ou est-ce qu'on va continuer à prier? Il y a une interdiction de prier dans des... Puis là, on se demande ça, ils vont mettre une agence... Pour la laïcité. Un peu comme l'office de la langue française. Okay, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des espions dans les restaurants. Là. Ils vont envoyer des espions dans les églises, dans les groupes communautaires. Moi, je vois l'office de la langue française, ils rentrent dans les entreprises. Et envoient, c'est excessivement dangereux, cette voie-là. Il faut que les chrétiens se préparent mentalement à la persécution. On ne peut pas juste dire que ça va bien aller. Parce que Jésus n'a pas dit à ses disciples que ça va bien aller. Il a dit que ça va mal aller.
C'est ça, il est préparé à ça. En effet, c'est-à-dire...
Il n'y a pas une crosse où on peut... Oui. Il n'y a pas une pétition à signer ou quoi que ce soit.
Oui, il y a une consultation au mois de novembre.
C'est ça. Donc, ça veut dire que l'idée derrière ça, c'est qu'il faut que ces informations-là puissent être vulgarisées. Voilà, parce que voilà, plus c'est vulgarisé, plus on prend conscience et plus on posera les actes... Qui viendra.
Il y a Louis Bourque en ce moment qui est en train de travailler pour une association de tous les chrétiens puis de toutes, peu importe les dominations, pour qu'on puisse essayer de faire un fond commun par rapport à ça, de dire une vraie laïcité.
C'est d'avoir le droit de prier, de servir son Dieu.
Ça ne prend pas son placement parce que le Québec ne peut pas avoir des lois qui sont à l'encontre de la Charte des droits et libertés. C'est comme.
Et toutes ces lois-là, c'est les hommes qui les établissent. Hein. Et puis les hommes vont trouver toujours des moyens pour les détourner, pour pouvoir accabler l'Église. Hein. Donc c'est important, effectivement, que l'Église puisse prendre des dispositions. Voilà, donc c'est des moyens, effectivement, que l'Église peut avoir, en plus de la prière ici. Donc on voit que le dilemme que vit Daniel, c'est pas un dilemme qui est datant, hein, mais il est encore présent, il est là, peut-être sous une autre forme. C'est-à-dire, c'est une autre forme de force au lion, certainement, qui se met en place tranquillement, comprenez? Donc ici, on voit les comploteurs usent de mensonges et de flatterie auprès du roi. Donc, le roi voit son orgueil prendre un peu de l'embonpoint, son orgueil grossit tranquillement. Donc, il est aveuglé par les flatteries des satrapes et des deux surintendants. Et dans ce qu'ils disent, il y a un mensonge parce qu'ils disent tous. Oh, Daniel n'était même pas avec eux. Voilà. Donc, on voit qu'ils utilisent un mensonge pour dire on est tous d'accord. Une façon de dire, même Daniel même est d'accord avec ce qu'on décide. Et Daniel, le meilleur de ses chefs, était absent. Donc, c'est un grave dilemme auquel est confronté Daniel. Donc, les conspirateurs veulent la mort de Daniel, soit sa mort physique ou sa mort spirituelle. Sa mort physique, parce que s'il refuse de suivre les directives qui sont données, en ce moment, il est jeté dans la fosse au lion. C'est la mort physique. S'il dit, bon, OK, d'accord, je vais me conformer à ce qui est en train d'être fait, je vais être dans le moule. Mais sa mort spirituelle, sa relation avec Dieu prend un coup parce qu'il n'aura plus le temps de prier, il n'aura plus le temps d'apporter cette dévotion-là à son Dieu. Donc, on voit effectivement que nous aussi, dans nos vies de tous les jours, on est confrontés des fois à ça. C'est vrai, peut-être pas au même niveau de grandeur que Daniel, mais on passe par des forces au lion aussi.
Peut-être nous au Québec, mais ailleurs dans le monde, on voit des gens.
Tout à fait, la persécution ailleurs, effectivement, qui est flagrante et puis, je veux dire, qui est vivante même. Une persécution vivante forte, oui.
Oui, ça me rappelle un passage de Timothée, hein, qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Amen. Dans les bénédictions qui vont suivre, il y a la persécution aussi qui fait partie.
Hein.
C'est ça.
Mais l'appel de Dieu qui surpasse
toute intelligence. Amen. Donc ici, la vraie force au lion pour Daniel, c'était certainement pas quand il avait été jeté dans la fosse aux lions, mais c'était la décision. Parce que des fois, on passe par des situations où on doit décider. Et c'est dans la décision qu'on voit les... Je veux dire qu'on vit cette, on vit vraiment l'épreuve. Parce que ça n'avait certainement pas été facile pour Daniel de changer ou de dire, bon, OK, moi, je choisis ça. Donc, il vivait ça. Et c'est là que Dieu apporte sa paix pour pouvoir l'aider et l'assister.
Oui. Quelqu'un d'autre à la place de Daniel aurait dit, il me suffit de ne pas prier pendant 30 jours.
Compromis.
Et ça passe.
C'est vrai. Compromis.
Il était fidèle.
Compromis.
Lui, c'était pas un homme de compromis.
C'est ça. Donc, on aurait pu effectivement dire, oh, mais OK, c'est rien. C'est juste 30 jours. Voilà, on aurait dit, c'est juste 30 jours et puis bon. Ça va passer, je n'ai pas besoin de prier 30 jours. Nous, ça nous arrive, hein? Arriver un moment de ne pas faire les bons choix comme Daniel. Et donc, face à ce complot-là et à ce dilemme, Daniel va opposer donc la fermeté. Il va opposer la foi, la fermeté et le courage. Donc, face à ce qui est dit, il va tout perdre. Sa vie est en jeu. Je veux dire, même sa richesse, ses biens sont en jeu. Mais il dit, malgré cela, celui qui donne la richesse, celui qui accorde les biens, c'est vers lui il va s'attacher. Donc, il n'a pas regardé il n'a pas d'abord regardé à sa vie, et puis il n'a pas regardé à sa position, il n'a pas regardé au bien qu'il possédait, mais il a regardé plutôt à sa relation avec Dieu. Et donc, du verset... 10 au verset 17, on dit, relevant le comportement de Daniel quand il apprend qu'un tel décret est signé, est écrit. Donc, il a gardé son habitude de prière. Donc, il a été ferme et persévérant. Et il ne s'est pas caché, comme l'a dit. Quelqu'un vous l'a dit quelque chose.
Il a presque provoqué la situation.
Oui.
C'est marqué, lorsqu'il a su que le décret était signé, il monta dans sa chambre, dans la chambre haute.
Est-ce qu'il a provoqué ou bien est-ce qu'il était dans ses habitudes?
Dans ses habitudes.
Dans ses habitudes, mais il voulait montrer que ça changeait rien.
En fait, on va dire il a désobéi au décret, c'est ça?
Oui.
Oui, il a désobéi au décret parce que c'est un décret. Effectivement, il a désobéi.
Je ne vais pas le prier, c'est pas ça qui va m'empêcher de prier.
Peut-être qu'il allait se mettre dans cette position pour dire, Seigneur, voilà encore une épreuve, je te remets en tes mains. Peut-être qu'il allait confier cette situation.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit que la vraie force au lion, pour Daniel, c'était pas quand on l'a jeté. Mais la vraie force au lion, c'était ce moment qu'il passait devant son Dieu.
Je trouve ça intéressant que la Bible ne se contredit pas dans ce niveau-là. Oui. Quand on lit dans Romains 15, où les instructions sont claires par rapport aux autorités. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, Daniel a décidé de désobéir à l'autorité parce que la suprême autorité, c'est Dieu. Voilà. Il a décidé de l'obéir.
Tout à fait. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Hébreux 11, 32 à 33, et puis sauter pour 36 à 37? Une autre personne prendrait Actes 5, verset 9. J'ai trouvé ça assez intéressant. Hébreux 11, du verset 32 au verset 33.
Et que dirais-je encore, car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David et de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions.
Wow.
Donc, par la foi, on voit comment des miracles sont accomplis. Je veux dire des miracles victorieux. Non, victorieux même, ça n'a pas son sens. Je veux dire, des miracles, victorieux pour l'être humain, c'est-à-dire on veut voir, on est malade, on veut un miracle de guérison, mais Dieu nous a guéris. Mais aussi quand Dieu ne guérit pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir en notre faveur. Voilà, voici pourquoi j'ai dit victorieux peut-être n'a pas sa place. Mais quand on va, donc ici on voit dans cette première partie, comment Dieu a fermé la bouche des lions. Comment les gens sont rentrés dans le feu qu'on a vu avec les trois gars. Et puis bon, le Seigneur a porté sa délivrance, ils sont sortis victorieux. Mais quand on lit du 36 au 37, toujours Hébreux 11, versets 36 à 37.
D'autres subirent des moqueries, les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités.
Amen. Donc, on voit des gens qui ont la foi, là. C'est-à-dire, les premiers où on voit des délivrances, mais ils avaient la foi. Mais les autres aussi, mais c'est des délivrances aussi que Dieu apporte. Mais le corps est scié. Vous comprenez un peu? Ils sont emprisonnés. Ils sont maltraités. Mais c'est les héros de la foi aussi. Donc, Daniel, quand il rentre, quand on le jette dans la fosse aux lions, son souci, ce n'est plus de dire... Les lions vont me manger, les lions ne vont pas manger, ce n'est plus son souci. Là. Son souci, c'est de donner gloire à son Dieu. Et puis maintenant, Dieu, par sa puissante main, a un plan, va démontrer son autorité et toute sa grandeur. Amen. Acte 5, verset 29.
Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Amen. Donc ici, on leur interdit d'annoncer, de parler du Seigneur et tout cela. Mais il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, c'est la situation dans laquelle Daniel se trouve. Je préfère obéir à mon Dieu que d'obéir aux hommes, parce que c'est une loi inique. Okay? Donc, c'est un peu les lois qui vont être prises ou qui sont en train d'être réfléchies, sur lesquelles les chrétiens, auxquelles les chrétiens vont être confrontés. Mais ce seraient des lois iniques. Alors, quelle est notre attitude par rapport à cela? C'est-à-dire, comment on s'organise en tant que chrétien par rapport à cela?
Et aussi, acte 4, 19, il dit, Pierre et Jean leur répondirent aux autorités, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. »
Amen. Donc, on voit effectivement ici, ça rejoint la position de Daniel. Amen.
Le grand plan est tellement bien monté que c'est lui Dieu.
Donc en réalité, le complot c'est contre Dieu, non contre Daniel.
En même temps, je me dis,
ouais, vas-y.
Le fait qu'il a prié immédiatement, je pense que Daniel, en même temps, il ne voulait pas laisser de place à son moi de commencer à essayer de se raisonner, de dire peut-être que je pourrais laisser quelques jours, ou peut-être que je pourrais avoir un... Laisser, je sais pas, c'est un peu comme qu'on lit souvent le moment où ce que le péché frappe à la porte, ça tombe droit devant toi, puis va tout de suite devant l'Éternel.
C'est ça. Amen. Parce que c'était pas une épreuve facile pour Daniel. Hein? Et puis, le seul refuge, comme Sébastien le dit, le refuge qu'il avait, c'était Dieu.
Exact. Et je pense que notre soeur a fait allusion à ça. Ouais. Devant une situation comme ça, tu n'as pas le choix. Tu te remets au Seigneur, tu vas vider ton cœur au Seigneur.
Tout de suite.
Amen.
Tout de suite.
C'est ça. Donc, il nous montre effectivement, quelle que soit l'épreuve, l'une des choses qu'on peut faire, effectivement, c'est ou la première des choses qu'on doit faire, on doit pouvoir se décharger sur lui. Et oui.
Oui, est-ce que je voulais dire une chose concernant la fidélité et l'intégrité de Daniel. Dieu fait son éloge. L'éloge des trois hommes dans Ézéchiel.
Oui.
Il y a Noé,
Daniel
et Job. Des hommes
intègres, fidèles. Amen. Oui, Vicky.
Une question. Est-ce que Daniel, clairement, il a fait ça aussi pour être un témoignage, là, pour que les gens puissent voir que c'est bien avancé et tout. Est-ce que Daniel aurait pu Est-ce qu'il faudrait qu'on continue de faire ça comme Daniel a fait, ou est-ce qu'on se dit, ben, si on prie en silence sans nécessairement être vu de tous, c'est aussi correct?
La question est posée, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, peu importe notre façon de prier, l'ennemi va nous guetter. Je pense qu'il faut qu'on soit prêt. Pour qu'on soit prêt, à tout ce qui peut arriver, faisant confiance au Seigneur. Faisant confiance au Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot.
Amen. Nicole,
tu... Daniel n'a jamais fait de compromis. Ce qui est le plus difficile dans une vie chrétienne, c'est de ne pas faire de compromis. De marcher droit pour dire que j'ai choisi Dieu pour que je continue de marcher.
C'est ça.
C'est ça. Maintenant, est-ce que dans nos attitudes, on peut apporter... Je veux dire, on peut essayer de changer nos comportements, un peu comme l'exemple que Vicky dit. Oui, bébé.
On a déjà changé nos comportements ici. On ne peut pas évangéliser à son collègue. Mm. Ce n'est pas nouveau. On ne peut pas parler de Dieu comme ça à quelqu'un. Ici, il y a des astuces qu'on essaie de trouver. Mm. Donc, comme Vicky a dit, aller au parc prier. Je sais qu'une fois, nous deux, on l'a fait, on était assis tranquillement au parc, mais on priait, on donnait nos sujets, mais on ne s'agenait pas les autres. C'est vous ça. Comprenez? On nous donnait les sujets, on remerciait Dieu, mais on avait comme les yeux ouverts parce que... Mais on était en prière, ça se passait entre nous et puis notre Seigneur. Donc, peut-être gêner les gens ou bien voir que des fois... Parce que déjà, la société ici nous amène à ne pas faire ça. Il ne faut pas parler à ton ami. Tu parles à moi, franchement, là, moi, je suis quelqu'un qui parle facilement. Je suis avec toi, là, je commence. Dès que tu envoies une situation, moi, je mets Dieu dedans. Oui. Je vais transformer ça en évangélisation. Ah, tu vois ça là, le ciel, je dis, mais tu sais qui a créé le ciel là? Tu sais qui a fait ça? Et puis on commence, et puis ils te disent, ah, moi je ne suis pas chrétien, je dis, mais pourquoi tu as commencé à me parler? Tu vois, donc, il faut trouver des astuces, puisqu'on ne doit pas parler. Donc, on trouve une situation pour te ramener que celui qui est à la base de ça là, c'est Dieu. Moi, je ne t'ai pas demandé quelque chose, c'est toi qui es venu me parler. Donc,
Et ce que je voudrais ajouter aussi dans l'attitude de Daniel ici, ce n'est pas une attitude provocatrice, hein? Voilà, c'est ça. Parce que lui, c'est ce qu'il fait habituellement. Il continue de faire, il se retrouve dans sa chambre. Il n'a pas changé. Voilà. C'est ça. Il n'a pas changé. Donc, pour moi, là, c'est-à-dire, tant qu'on n'est pas en train, on n'est pas versé dans la provocation, on fait nos affaires.
J'ai pensé beaucoup à cette question-là. Oui. J'ai partagé ça déjà, mais je faisais potentiellement face à une attestation de valeur au travail. On n'a pas fait face. Je remercie Dieu que peut-être le président des États-Unis a joué un rôle là-dessus. On a une grosse filière américaine. Mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à faire de la désobéissance civile. Mais quand quelqu'un le fait, on l'a vu même avec la COVID, le gouvernement qui s'ingère dans
les affaires.
On l'a vu, on l'a vécu, on a décidé de contre-mettre. Ouais, je veux rien contre ça. Ouais. Quand quelqu'un se met debout, qui est prêt à faire face à la prison, on devrait le supporter en prière. Ouais. Ouais. Pas le critiquer, il dira, oh, il y a un esprit de rébellion, blablabla. Il n'est pas prêt à compromettre ses valeurs. Mais je regarde à l'église en Chine, et puis pas dans les rues. Fait que, je pense qu'il y a quand même une zone grise face à ça, mais il y aura du monde qui ne sont pas prêts à compromettre aucunement leur façon de louer leur Dieu face à un décret. Puis quand ces gens-là se mettent debout, puis vont en prison, on fasse à des amendes énormes, on ne devrait pas les critiquer dans notre salon.
Oui, vas-y Bernard.
Moi, si j'ai affaire, je suis au travail, puis je suis à la cafétéria, puis je suis en train de prendre mon dîner. Je vais faire ma prière pareil. Je le fais pour moi, je ne viens pas influencer les autres. Mais si les autres me voient prier, ça c'est un
au fait, travail, c'est ça, tu ne te caches pas pour
non,
prier.
Non, c'est ça. Je ne m'impose pas. Là,
Et l'attaque peut venir de ça. Oui.
Voilà, c'est-à-dire, c'est ça. Au fait, c'est l'attitude que Daniel a eue. C'est-à-dire, il n'a pas changé sa façon de faire, il n'a pas provoqué. OK, un décret est fait, c'est un décret. Moi, je rentre dans ma chambre, je fais ma prière. Parce que dans la suite du test, on nous dit même que ceux qui sont allés dénoncer Daniel, mais ils l'attendaient. Ils sont allés le scruter, ils sont allés le chercher. Vous comprenez un peu? Donc, c'est là qu'ils voulaient l'attendre. Donc, ils sont allés chercher et tout pour pouvoir dire. Moi, je me souviens une fois, il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela, et puis, pendant que j'étais à l'étage, j'ai un médecin qui est venu. Et puis, il critiquait un de ses collègues médecins. Et il parlait de la religion et puis il leur dit, mais vous savez, mais on a un médecin en bas. Vous savez qu'il est baptiste, il est chrétien, ils sont... Et puis, moi, j'étais assis à la table. Et puis, bon, erreur, ils ont voulu avoir mon avis là-dessus. Et je suis très d'accord avec lui et que c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde s'est tué, les gens se sont levés. Et puis... Donc, c'est tellement, j'ai dit, voici quelqu'un aussi qui pouvait. Donc, des fois, effectivement, il y a des occasions comme ça C'est-à-dire, les gens, les occasions, mais quand l'occasion se présente, on n'a pas le choix de dire effectivement qui nous sommes.
Est-ce que Daniel, quand il priait dans une chambre fermée ou s'il allait, soi-disant, sur un toit pour prier?
Donc, lui, il montrait dans sa chambre la fenêtre ouverte vers Jérusalem pour prier. Mais, comme on a dit tantôt, c'était un piège. Donc, ceux qui ont fait le piège cherchaient une occasion pour l'attraper. Donc, par rapport à ses habitudes, c'est-à-dire, même si la porte était fermée, certainement, Daniel, c'était un haut gradé de la société. Il avait dans son staff aussi du personnel qui travaillait.
Il était sage, Daniel.
C'est ça.
Il suivait les nouvelles.
C'est ça. Il savait ce qui se passait.
Mais c'est pas écrit. Daniel a ouvert les fenêtres. Puis il était
c'est ça. Ouvert. Comme à son habitude. Hein?
Que c'est même ses collègues qui ont ouvert les fenêtres.
Notre mission, c'est d'évangéliser.
Amen.
Donc, on ne peut pas non plus toujours se cacher.
Oui, sinon, c'est ça. On ne peut pas témoigner. C'est ça.
Quand on prie, c'est une relation personnelle avec
Amen.
Notre Dieu. Donc, puis même Jésus, c'est Jésus qui avait dit, tu vas te cacher de prier pour prier.
Pour prier, rentre dans ta chambre pour prier. C'est ça.
À quelque part, il y a ces deux aspects-là qui sont difficiles des fois à concilier. Je pense qu'on se pose tout un peu cette question.
Cette question. Mais moi, je pense que l'idéal, là, ce qu'il faut retenir, c'est que nos actions, on ne provoque pas dans nos actions. On n'agit pas pour provoquer les autres. Mais on va agir pour obéir à Dieu. On va agir pour faire plaisir à Dieu, pour rendre témoignage à Dieu. Mais on ne va pas agir pour forcément dire, « Ah non, parce qu'il a fait ça, moi je fais ça. » Non, non. Nous, on sert Dieu selon la conviction qu'il met dans nos cœurs. S'il voudrait qu'on se lève pour le proclamer publiquement au Pâques, on va se lever, on va le proclamer publiquement au Pâques en s'attendant aux conséquences. Et c'est dans ça que Dieu opère son miracle, il agit et il touche les cœurs. S'il veut qu'on rentre dans notre chambre pour prier, pour que les cœurs soient transformés, on va rentrer dans notre chambre et puis on va prier pour que les cœurs soient transformés. Amen. Oui.
Ouais, il faut prier pour nos enfants aussi, nos petits-enfants.
Ah oui.
Parce que j'ai un de mes petits-enfants qui a été invité chez quelqu'un et puis là, il a été chez ses beaux-parents. Et ils arrivent autour de la table, puis ils allaient dîner. Puis tout d'un coup, il se lève et dit, hey, vous ne priez pas? Puis là, ils l'ont dit, ok, tu peux
prier pour nous.
Et il a prié.
Amen.
Alors, c'est comme on les instruit et puis on leur donne ce qu'on doit donner. On est dans le centre d'achat et on s'assoit pour manger. Ils s'attendent à ce qu'on prie.
Tout à fait. Amen.
Alors, il faut prier pour eux.
Pour eux, tout à fait.
Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que souvent, quand on a un processus décisionnel, on commence avec les pour et les contre.
Oui.
Plutôt qu'est-ce que c'est bien ou mal.
C'est ça.
Il faut commencer avec est-ce que c'est bien ou mal. S'il n'y a pas de réponse à ça, là, on va pour les pour et les contre.
Oui.
Le processus décisionnel du croyant, c'est pas pour et contre. C'est d'abord et avant tout, est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que ça glorifie Dieu ou non.
Tout à fait.
Là, on va vers la deuxième étape de les pour et les contre, si la réponse n'est pas noir et blanc.
Tout à fait. Amen. Donc, c'est ça. Les conspirateurs rapportent au roi la désobéissance de Daniel en mettant un point d'honneur sur son origine pour le dénigrer. Donc, le roi Darius est embarrassé. Il se rend compte de sa... C'est ça. J'ai dit Darius. Darius, c'est ça. Le roi Darius est embarrassé. Il se rend compte de sa légèreté car il a pris un décret sans discerner le contenu. Parce que c'est l'un de ses meilleurs qui doit livrer. Je dirais, c'est son meilleur même qui doit livrer. Donc là, il regrette son acte. Donc, ça, l'interpellation pour nous aussi, avant de décider, c'est important pour nous de pouvoir discerner. Et avec peine, il doit livrer son meilleur surintendant.
Mais il n'est pas roi, lui. Il avait toute autorité pour dire non.
Non, mais le problème, c'est que on a la loi des Mèdes et des Perses qui est, comme on a dit, c'est une loi immuable. C'est-à-dire, s'il vient et puis il change, il se discrédite lui-même. Et puis, son autorité est bafouillée. Donc, il doit respecter la loi qu'il a prise. C'est ça, le discernement. Parce que lui, on a flatté son ego. Il était content. Il a été pris au piège. Parce que les gens ont menti pour dire que tous étaient d'accord. Donc, pour lui, dans le tous, même Daniel y était. Mais là, il se rend compte effectivement qu'il a été menti. Voilà, il ne peut pas revenir en arrière. Donc Daniel est physiquement en danger, mais pas spirituellement. En s'appuyant sur Dieu, il a résisté au diable. Donc on l'a dit, dans la démarche de Daniel, la première étape, c'était d'aller toujours se réfugier en Dieu. Certainement, le faisant, il apportait toutes ses préoccupations-là au Seigneur. Il dit, voici ce qui a été décidé, je me remets entre tes mains, je me décharge sur toi. C'était beaucoup de pression aussi pour lui, ce n'était pas une épreuve facile. Et pendant que je regardais, je me demandais, mais ah, peut-être qu'il avait une famille, ça on n'en parle pas. Il avait, donc imaginez-vous toute la pression qu'il pouvait vivre en tant que roi. Pas en tant que roi, mais en tant que personne craignant Dieu. Voilà. Il perdait ça, mais on se rend compte effectivement que pour lui, le danger était plus spirituel pour lui que physique. Et Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, les mêmes souffrances qui sont en train de venir ici sont déjà imposées à nos frères en Chine, à nos frères en Inde, à nos frères partout dans le monde qui vivent les mêmes souffrances. Donc, résistons au diable. Donc, on voit effectivement que Daniel résiste ici en s'appuyant sur Dieu. Alors, il est jeté dans la fosse aux lions. Apprécions ensemble les propos du roi au verset 16 et au verset 20 à l'endroit de Daniel. Juste pour faire une comparaison, au verset 16, dans ma version ici, il dit « Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, te délivrer. » Ici, il n'a pas le choix. Daniel doit être jeté. Mais pendant qu'il va, certainement, il lui dit, il l'embrasse et puis il lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, puisse te délivrer. »
Je pense qu'il y a une certaine foi là-dedans. Là. Je pense qu'il y a une certaine
foi. Qu'est-ce que ça? Le roi? Non, mais lui, le roi... Lui, il parle du Dieu de Daniel. Lui, là, c'est Dieu qu'il adore, il fait confiance. C'est comme il disait, une façon de dire à Daniel, bon courage. Mais le Dieu que tu pries, là, s'il est capable de te délivrer, qu'il te délivre. Il espère. Lui, c'est une espérance, mais pas vraiment une foi. Parce que pour lui, dans la fosse au lion, Dieu va le...
Je ne suis pas convaincu. Pourquoi je dis ça?
Oui.
Okay? Right. Parce que plus tard, pourquoi se réveiller demain matin, le lendemain, aller appeler Daniel? Moi, il y a un élément de foi, là.
Un petit brin d'espérance. il avait peut-être un petit brin d'espérance, parce que même quand il se levait tôt pour aller le dire, peut-être qu'il le fait sans croire que quelque chose va se passer. Mais on peut noter aussi qu'à partir de l'expérience des autres vécues, peut-être que ça lui donne une espérance. Oui, Dominique, derrière.
J'allais dire, parce que observer Daniel, il a vu sa réussite. Mm-hmm. Puis son exemple qu'il donnait aussi,
son
vie, son témoignage. Puis justement, il s'est dit, ce gars-là, son non, Dieu,
c'est ça.
Vraiment capable de le sauver.
C'est ça. C'est une espérance, pas, je dirais pas une foi. Parce qu'on nous dit que, bon, c'est vrai que dans la foi, il y a l'espérance, hein. Mais parce qu'on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc lui, il espère que c'est le Dieu de Daniel va faire quelque chose. J'espère que ton Dieu va faire quelque chose. Comprenez? Mais pas avec la conviction que je crois que ton Dieu va faire quelque chose. Mais il espère que quand même, Dieu est capable. Peut-être que quelque chose va se passer.
Il est parti à la hâte pour aller voir son corps brisé. C'est assez étonnant. Je ne pense pas qu'il y avait hâte de voir un mort.
Mort.
Un sous-entendu qui est assez clair.
Oui, mais c'est ça. C'est cette espérance-là, ce brin d'espérance-là qu'il avait. Et puis, sans compter que je suppose qu'il a appris effectivement les expériences passées de la vie de Daniel et des jeunes gens aussi qui étaient là. Donc, on voit son mot ici quand on le jette. Et puis, au verset 20, il lui dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel, on dit, d'une voix triste. C'est-à-dire une voix découragée.
Parce que s'il avait la foi, il allait dire, Daniel, je crois que ton Dieu va me sauver, comme il a fait autrefois. Mais c'est comme ça. Tu dis au verset 20, il dit, d'une voix triste.
Donc pour lui, ça, peut-être Daniel va mourir. C'est cela, d'une voix triste, il appelle Daniel.
C'est-à-dire il a battu. Je suis triste que ce soit arrivé à Daniel.
Daniel, je sais que comme les autres fois, Dieu va te délivrer encore sur lui. Non, il y a l'espérance, mais c'est pas trop la foi, mais c'est un peu de.
Donc il dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Donc là, il pose une question. « A-t-il pu te délivrer des lions ?» On a dit, « J'espère que ton Dieu t'a délivré des lions. » Vous comprenez ? Voilà. Donc ici, on voit, il avait une espérance. Donc quand on voit les deux, quand on met ici les deux versets et puis le réveil du roi, c'est que le roi espérait. C'est-à-dire, il croyait que le Dieu de Daniel pouvait le délivrer, mais il n'avait pas cette forte conviction que cela était, et pouvait se réaliser. Puis nous, des fois, dans nos prières, c'est comme ça qu'on prie. Hein. C'est-à-dire, on va aller vers le Seigneur avec un sujet, mais on doute même du sujet qu'on envoie au Seigneur.
Ça, c'est l'homme. Parce que c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu
dans nos vies
qui va créer cette conviction.
Voilà. C'est ça. Donc l'attitude du roi ici, c'est un peu nos attitudes quand des fois on va.
Tantôt, on sait qu'il y en a des fois qui n'ont pas cette grâce-là, qui vont passer par la mort, puis qui vont devoir. Fait, par soumission, on ne peut pas. On ne peut pas interpréter la volonté de Dieu dans nos vies, puis on reste dans l'attente. Fait que c'est ça qui nous met dans une position où on a de l'angoisse, parce que c'est quoi tu veux pour moi, Seigneur?
Amen.
Tout ce que je m'en vais, c'est ma façon de voir les choses, c'est peut-être pas nécessairement la même façon que notre Dieu.
Donc, c'est ça. Donc, c'est cette angoisse-là que Daniel a apportée au Seigneur. C'est cette angoisse quand il est allé, quand il a eu le décret, et puis il est allé prier. Il n'allait pas prier pour une bonne gestion du royaume. C'était plus là son souci. Là. Son souci, c'est cette angoisse-là qu'il a apportée devant le Seigneur. Et puis, c'est parce que Dieu lui donne la paix qu'il va tranquillement et puis il ne désobéit pas.
Je fais un petit revient tout simplement le verset dans le chapitre 3 de Jean, où il y a les jeunes jetés dans la fosse aux lions.
Dans la fournaise ardente, oui.
Mais que le Dieu nous délivre. Vous voyez,
c'est ça. Qui nous délivre
ou pas, on ne suppliera pas.
On ne suppliera pas. Voilà, c'était ça. Donc, on voit comment ils envoient effectivement sur qui se décharge. Et puis, comme on l'a dit, et Dieu donne la paix pour affronter ces situations-là. On a vu Étienne. Comprenez, pendant qu'on est en train de lapider, il est en train de prier.
Pour l'amener Étienne n'est pas marqué de quoi. Je voulais amener un deuxième point, c'est Daniel, il avait poussé à 90 ans. Là, si tu regardes
les c'est amis, ça. Ouais.
Quand quelqu'un, une personne aînée, parle, tu dis, ça va être écouté. Surtout quand il y a des cicatrices depuis dans la vie chrétienne. Mm-hmm. Il dit, j'ai un problème avec cette théologie-là, j'ai un problème avec ça.
Oui.
Quand tu as quelqu'un qui a 50, 60, 70 ans d'expérience dans la vie chrétienne,
c'est ça.
C'est sage de les écouter. Mm. Puis je suis contre les églises où c'est juste fait pour les jeunes, parce que l'église, c'est pour tout le monde. Ouais. Quand les Daniel parlent, on ferait bien les écouter. Ouais. Quand les gens dans l'église qui ont 60, 70 ans d'expérience dans la vie chrétienne, j'ai de la misère avec ça, j'ai de la misère avec cette théologie-là.
On peut prendre le temps de
l'écouter parce que les autres ont des cicatrices de vie qui mènent à la sagesse.
Amen. Il y a un adage africain qui dit quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà, c'est-à-dire c'est de la connaissance, on tire, il y a des choses qu'on peut tirer. Et puis moi, personnellement, je ne cesserai de le dire, c'est pour moi un témoignage d'avoir des aînés, des personnes âgées, parce que des fois, quand tu passes par des moments difficiles et puis tu te dis, ah, mais si ces personnes ont tenu à partir de ce qu'ils ont vécu, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Dieu peut nous encourager. Dieu peut. Donc, c'est vraiment une bénédiction d'avoir ces personnes, je dirais, d'expérience au milieu de nous. Et puis, tant qu'on peut tirer de l'expérience, tirer de leur sagesse, je pense que c'est important qu'on puisse tirer, qu'on puisse le faire. Amen. On va avancer un peu. OK. Donc, la vie spirituelle de Daniel était connue du roi avant les événements. Donc, le roi s'attendait... Est-il que Daniel lui réponde? Donc, c'est ça, il espérait. Parce que des fois, tu es découragé et puis tu dis, ah ok, quelque chose va se faire. Dieu délivre Daniel dans l'épreuve. Le roi est réjoui de la délivrance de Daniel. Dieu a accompli un miracle dans la vie de Daniel parce que il avait confiance en Dieu. Donc, Daniel avait confiance en Dieu. Donc, les conspirateurs et leurs familles ont péri dans la même fosse. On nous dit, dès qu'on les met net, ils sont broyés. Ces jours-là, les lions avaient un bon appétit. Mais quand Daniel est arrivé, je ne sais pas, mais... Mais c'est pour ça, tous ceux qui désobéissent, tous ceux qui, tous ceux qui s'opposent au royaume. C'est ça? Mais c'était certainement comme un cirque. Certainement, quand on jette les familles, il y a des endroits où on peut regarder comment est-ce que c'est du spectacle. C'est ça. C'est du spectacle. Et puis, c'est une façon de dominer aussi. Donc, quand tu désobéis, si tu veux que ta famille, tout le monde passe, il faut désobéir. Si tu veux te rebeller au pouvoir qui est en place, il faut qu'on mette des mesures aussi. Vous comprenez cela? Même ces mesures-là sont transformées en des prisons et tout cela aujourd'hui. Okay. C'est ça. Le roi Darius glorifie Dieu, du verset 26 au 27. Et la proclamation de la crainte et de la frayeur de Dieu, du Dieu de Daniel. Et 26 à 27, il nous dit, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Donc, on voit effectivement, dans cette proclamation, on dirait que c'est un chrétien qui est en train de d'adorer. Donc, il voit comment Dieu est puissant pour agir. Donc, le roi donne les raisons de craindre le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant. Il est éternel. Son royaume et sa domination subsistent à jamais. Il délivre, il sauve, opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'on peut confesser cela nous aussi aujourd'hui? Est-ce que Dieu fait ces choses encore?
Ça me fait penser au texte, une chose que dans Éphésiens, en tout cas, je ne m'en souviens pas, que la foi vient de Dieu. On voit que ce roi Darius, là, un humain ne pourrait pas l'imposer la foi comme il veut l'imposer aux autres.
C'est ça.
C'est Dieu dans son plan qui a décidé par ses moyens de lui accorder la foi.
La foi.
Et puis je pense que pour nous aujourd'hui, c'est la même.
Dieu c'est travaille la même. Dans nos vies de façon différente.
Accorder cette foi-là afin de croire au sacrifice de son fils Jésus-Christ.
Amen. Donc, on voit ici que le témoignage de Daniel touche le roi qui s'incline et qui commence effectivement à donner la gloire au Dieu de Daniel. Et au verset 28, donc la bénédiction est accordée à Daniel à la fin de sa vie. Il a continué d'être une ressource sûre pour le royaume. Donc, il a prospéré davantage. Donc, on voit dans tout le parcours de la vie de Daniel, effectivement, que Dieu l'a béni, l'a fait prospérer. Même dans les moments difficiles, Dieu les utilisait pour pouvoir l'élever, le faire prospérer. Comme conclusion, j'ai dit, qu'arrive-t-il au sel s'il perd sa saveur? Daniel n'a pas perdu sa saveur. C'est-à-dire, malgré que c'était difficile, il n'avait pas perdu sa saveur. Donc, plaire à Dieu ou plaire aux hommes, c'est le choix auquel nous faisons face à tous les jours comme enfants de Dieu. Comme Daniel, choisissons la pureté spirituelle, car la victoire finale appartient à Dieu. Comme Daniel, dans l'épreuve, confions-nous à Dieu qui nous donnera sa paix qui surpasse toute intelligence. Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Donc, on va prier avec la sœur Amélie pour dire merci au Seigneur pour cette étude et prier que Dieu nous aide à garder la foi, à lui faire confiance, à nous attacher à lui. Prions ensemble.